Pour introduire ce message, j'aimerais vous parler d'un événement qui s'est passé il y a quelque temps, un témoignage. Il y a quelques années, j'étais dans une église, une petite église à Marseille, la plus petite des églises. Et on avait, pour la fête de Noël, l'habitude de prier et de faire un événement qui s'appelle la fête de la famille. Et on avait invité pour l'occasion le pasteur Saïdou Djibou. Vous connaissez ? Pour ceux qui le connaissent, c'est un pasteur qui travaille, qui est très très engagé dans beaucoup de domaines. Et la petite église que nous étions, on était très mobilisés. On priait, on était dans la logistique, on préparait toutes ces choses. Et en temps normal, nos cultes, en fait, nous sommes 50 à peu près. Et le jour de l'événement, pendant la mission avec Saïdou Djibou, qui présentait son spectacle, on était comble, c'est-à-dire 200 personnes, 200-250 personnes. Les familles ont été touchées, et d'autant plus qu'en fait, notre église était située dans un quartier plutôt très musulman. Et c'était majoritairement et c'est quasiment exclusivement des familles musulmanes qui venaient et qui venaient écouter l'évangile. 250 personnes. Si on compte qu'on enlève, on va dire, nos 40-50 personnes qu'on était chrétiennes et croyantes, ça veut dire 200 personnes à peu près qui ont été au contact de l'évangile. C'était pour nous un succès. On dit, waouh, extraordinaire. Les semaines ont suivi, et puis en fait, aucune de ces personnes n'était revenue. On ne comprenait pas. Au début, je ne m'étais pas posé la question. Du coup, l'année suivante, rebelote. On avait réinvité encore Saïdou Djibou. Et on avait mis encore tous nos efforts, etc., etc. Et encore, l'événement arrive, comble, 200-250 personnes. Des familles ont encore été touchées. Ils ont reçu l'évangile dans leur cœur. Ils ont entendu l'évangile dans leur cœur. Et puis les semaines, les jours sont passés, les mois, et en fait, on ne les a pas revus. Et je m'étais posé cette question, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ne sont-ils pas revenus ? Et l'une des réponses que j'avais trouvées, c'était en fait une question qui était celle que je vous ai posée, c'est est-ce qu'on était prêt à les recevoir ? Est-ce qu'on était prêt à recevoir ces personnes ? Est-ce qu'on était prêt à les accueillir. Vous savez, accueillir, c'est pas comme on croirait dans le monde, c'est-à-dire bonjour, bienvenue, allez, rentrez, c'est par là. Bonjour, ça va ? Allez-y, c'est par ici. Accueillir, c'est bien plus que cela. Accueillir, c'est aimer. Accueillir, c'est prendre du temps avec les personnes. Lors de l'événement à Marseille, la conclusion à laquelle j'étais arrivé, c'était si nous étions prêts à les accueillir, à prendre du temps avec eux, à les accompagner, à bien leur expliquer les choses, si on était en capacité physique de pouvoir le faire, Dieu aurait envoyé, Dieu y serait revenu. Parce que pour tous les événements qu'on peut faire, et je pense qu'on l'a vu avec tant d'événements que vous avez vus, vécu, participé, on arrive à faire comble, on arrive à faire venir même des personnes nouvelles, même le dimanche matin. Mais souvent, ils ne reviennent pas. Et c'est peut-être là où on manque un petit peu quelque chose, au niveau de notre manière d'accueillir les gens. Ce n'est pas d'être super professionnel, mais c'est de comprendre pourquoi on accueille les gens. Vous souvenez-vous la première fois que vous êtes arrivé, que vous avez été touché par Christ ? Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez franchi ces portes, ou la porte de je ne sais quelle église ? Les sourires qui étaient là, les gens qui étaient là avec une authenticité, un sourire incroyable. Accueillir, c'est aimer. C'est pas juste qu'un service dans l'église. C'est pas juste l'affaire des gens qui sont juste dans le service d'accueil. Et merci beaucoup pour les gens qui sont investis dans le service d'accueil. Mais c'est l'affaire de tous. Il n'est pas dit que certains accueillent. Non. De la même manière que Christ nous aime, nous sommes appelés à aimer. De la même manière que Jésus-Christ nous accueille, nous sommes appelés à accueillir. Accueillir celui qui est différent de moi. Dans le contexte que je vous ai lu, j'aurais juste pu vous lire en fait le verset 7, mais je voudrais aussi mettre l'accent sur le fait que accueillir, ce n'est pas forcément que des personnes qui ne sont pas croyantes. Dans le contexte dans lequel l'apôtre Paul le dit, c'est dans le contexte des croyants. Parce que accueillir, ce n'est pas aussi les personnes nouvelles ou les personnes non croyantes, mais c'est aussi s'accueillir les uns les autres. C'est aussi des croyants, des gens qui ont des personnalités différentes, des gens qui pensent autrement, des gens de tout rang social et de différentes éducations. C'est ce qui fait la richesse de l'Église. Ce sont ces différences. Et si on fait de ces différences non pas un sujet de division, mais plutôt un sujet de complémentarité, alors l'Église ne peut être qu'enrichie. Et quand les gens verront ça, ils verront, mais qui sont ces gens qui arrivent à cohabiter ensemble, alors qu'ils sont si différents? C'est qu'il y a quelque chose qui règne, c'est Christ, c'est le Saint-Esprit en nous. Si on relit un petit peu plus haut, dans le chapitre 14 de Romains, au chapitre 14, au verset 1er, il est dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. » Là, c'était une question de nourriture, mais ça peut être tellement de choses. Moi, je pense que c'est bien de prier debout. Il y en a qui pensent que prier assis, c'est bien. Les deux, c'est tout aussi bien. Pourquoi discuter des opinions? Il y en a qui préfèrent prier les yeux fermés, d'autres prient les yeux ouverts. Pourquoi discuter des opinions? Sommes-nous plus sanctifiés? Serons-nous plus écoutés? Accueillons-nous les uns les autres, comme Christ nous a accueillis. Avez-vous déjà réfléchi un petit peu à Christ, comment il nous a accueillis? À la lumière de la Bible, Christ l'a accueilli comment? Avec amour et compassion, sans distinction de rang social, d'origine. Il accueillait tout le monde, tous ceux qui venaient à lui. Il n'y avait pas d'exception. Et ça, on le retrouve dans tout le Nouveau Testament. On lui amena des malades. Il accueillait les gens malades et les gens dans le besoin. Ceux qui avaient mauvaise réputation. Vous vous souvenez? Par exemple, Luc 15, verset 1er. Tous les publicains, c'est-à-dire les ennemis des Juifs, enfin, ceux qui avaient très mauvaise réputation, qui étaient très mal vus par les Juifs, pardon, et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les ultra-spirituels, les gens très ancrés dans la foi, les pharisiens et les scribes, murmuraient disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et souvent, quand on dit qu'on accueille des gens ou qu'on va leur parler ou qu'on va les aimer, on a l'impression qu'on est en train de dire « J'accepte, je cautionne ton péché, je cautionne ce que tu fais de mal. » Et pourtant, tous les gens que Jésus avait, enfin, beaucoup de gens que Jésus avait accueillis, ils ne cautionnaient pas le péché, mais ils aimaient le pécheur. Et peut-être que nous, on est un petit peu focalisé sur le péché. Peut-être qu'on est focalisé sur la mauvaise odeur de celui qui vient de rentrer et qui n'a pas une très bonne odeur, qui ne se parfume pas au Coco Chanel. Que celui qui est peut-être mal habillé et qu'on est là et on le regarde avec peut-être un air de jugement. Mais comme on est chrétien, on essaye de cacher la chose. Alors que peut-être on pourrait dire, Seigneur, comment toi tu l'accueillerais? Mais comme tu as accueilli ces publicains et ces gens de mauvaise vie, parce que tu ne regardes pas à leurs péchés, tu regardes à leurs besoins, le besoin du salut, ce besoin d'amour, ce besoin d'être considéré. Est-ce que vous revoyez Jésus là, en train de vous considérer, vous, tel que vous êtes, comment il est venu vous chercher? comment il vous regarde actuellement. Nous sommes enfants de Dieu, précieux. Jésus accueillait les enfants. Marc 10, verset 13. Des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné. Jésus fut indigné du fait qu'on fasse des reproches à ceux qui amenaient les enfants à Jésus. Jésus considère les enfants. Et nous, parce que des fois, ils sont peut-être un petit peu bruyants, il faudrait les corriger et on ne les accueillerait pas. Il dit, laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Jésus a accueilli toutes sortes de personnes. On pourrait même dire ces ultras spirituels, il ne les a pas accueillis, parce que souvent on dit, il y a les religieux de l'époque qui étaient contre Jésus. Mais non, il les a accueillis. C'est juste ces religieux de l'époque, docteurs de la loi, pharisiens, etc., qui n'avaient pas accueilli le message de Jésus. Vous souvenez-vous, Nicodème, c'est un pharisien. C'est lors d'un entretien avec Jésus que d'ailleurs on a eu droit à ce Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Peut-être que si Nicodème n'avait pas eu cet entretien avec Jésus, on n'aurait pas eu ce verset. Mais il n'a mis personne dehors. Il les a accueillis, ceux qui venaient à lui. Alors, peut-être que de la même manière, ceux qui viennent, que nous puissions l'accueillir aussi, comme Jésus a accueilli. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis. Pourquoi ? Pour la gloire de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, accueillir les non-croyants sans considérer, je vais dire, leur état, si des fois leur état est un petit peu compliqué. C'est ce que nous rappelle l'épître de Jacques au chapitre 2, où il dit, mes frères, verset 1er, mes frères, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez en effet qu'un homme vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or, entre dans votre assemblée et qu'entre aussi un pauvre en haillons, le grand riche et le pauvre. Bon, il n'est pas à côté de moi. Voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous lui dites, « Veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place. » Tandis que vous dites aux pauvres, tenez-vous là, debout, ou asseyez-vous par terre, à mes pieds. Ne faites-vous pas des différences parmi vous, et ne portez-vous pas des jugements fondés sur des mauvaises raisons. Écoutez, mes chers frères, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? Que nous puissions regardez, non pas comme regardant le physique, l'apparence, l'odeur, la richesse ou la pauvreté, ou la maladie, le handicap, mais que nous puissions regarder comme Jésus nous a regardés. Pour nous accueillir les uns les autres, nous qui sommes croyants, j'ai juste pris le texte de 1 Corinthiens 12 qui nous parle du corps de Christ. Vous savez, nous sommes le corps de Christ, donc il y a beaucoup d'organes dans le corps de Christ. Chaque corps a différentes fonctions. L'œil ne fait pas ce que la main fait, ni l'oreille, etc. Et dans 1 Corinthiens 12, je vous fais vite un résumé pour arriver au verset 22. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes, dans la version Semeur, sont particulièrement nécessaires. Dans notre conception humaine, quelque chose d'insignifiant, c'est insignifiant. Dans la conception de Dieu, ce qui est insignifiant à nos yeux sont nécessaires. Incroyable. Incroyable. Seigneur, donne-moi ta logique. Donne-moi ta conception. Parce que pour moi, c'est trop dur. Parce que dans ma tête, ça ne rentre pas. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il ? Et c'est là la force de l'Église. Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Il ne se jalouse pas, mais tous les autres partagent sa joie. C'est ça la puissance, la richesse, la force de l'Église. Quand un membre souffre, tout le monde souffre. Quand un est joyeux, tout le monde se réjouit. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. Vous souvenez-vous, il y a quelque temps, j'ai oublié de conclure sur l'exercice que je vous ai fait faire la dernière fois, où j'avais demandé de vous regarder les uns les autres tout autour de vous, bien attentivement. J'ai oublié de vous poser la question, alors qu'est-ce que vous avez vu ? Mais là, je vais juste conclure en disant, lorsque vous regardez les uns les autres comme ça, regardez comme Jésus a regardé, à quel point cette personne-là, elle est précieuse. Cette personne-là, elle est précieuse. Incroyablement précieuse. Cette personne-là, incroyablement précieuse. Et je veux la considérer. Parce que Jésus l'a considérée. Parce que Dieu m'aime et je suis précieux à ses yeux. Mais Dieu l'aime tout autant. Et elle est précieuse ou il est précieux à ses yeux. De telle sorte qu'il a donné sa vie pour que nous puissions être rachetés. Nous sommes un corps. Que nous puissions vraiment réaliser à quel point peut-être nous sommes précieux aux yeux de Dieu, pour que nous puissions peut-être comprendre à quel point mon prochain, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé, ma bien-aimée est précieuse. Et qu'on pourrait prendre plus de considération pour chacun, que ce soit du bébé à l'enfant, à l'adolescent, aux jeunes, aux un peu moins jeunes et à ceux qui ont l'âge de la sagesse. Vous savez, peut-être que l'accueil, c'est quelque chose qu'on a beaucoup négligé, parce qu'on croit des fois que c'est automatique. La parole de Dieu, elle touche, elle percute. Les gens sont touchés, ils sont guéris. Alléluia, les gens sont baptisés d'un esprit. Mais si Dieu a fait l'Église, si Dieu bâtit l'Église, c'est aussi pour qu'on les accueille. Qui a écrit l'Épître aux Romains ? Qui a écrit cette épître aux Corinthiens ? C'est Paul. Mais Paul, où est-ce qu'il en est arrivé ? Au tout début, c'était quoi ? C'était Saul de Tarse, le meurtrier. Au tout début, c'était celui qui persécutait les chrétiens. Et un jour, Dieu l'a touché. Dieu lui a fait grâce. Il a révélé son amour à Paul. À Saul de Tarse qui est devenu Paul. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Acte 9, verset 26. À son arrivée, donc à l'arrivée de Paul, à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui. Tous avaient peur de Paul, parce qu'il était reconnu comme celui qui persécutait le meurtrier des chrétiens, celui qui avait approuvé le meurtre et la lapidation de Étienne. Car il ne croyait pas qu'il fût vraiment devenu un disciple. Verset 27. Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur et comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors, il se joignit à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur. S'il n'y avait pas eu Barnabas qui avait accueilli Paul, il n'y aurait pas eu Paul le missionnaire, il n'y aurait pas eu peut-être les épîtres de Paul. D'un seul geste, d'une manière d'aimer, est descendue la parole de Dieu qui aujourd'hui a 2000 ans. Les écrits de Paul qui représentent presque un tiers du Nouveau Testament. Du fait que Barnabas ait accueilli Paul et l'a fait rentrer dans le groupe des disciples. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Saïd Oujibou, pour être un petit peu plus contemporain. Vous connaissez le témoignage de Saïd Oujibou ? C'est un musulman qui est parti espionner, donc c'est un musulman très pratiquant. C'était un musulman très pratiquant. Et un jour, ses parents l'ont envoyé espionner sa sœur qui s'est convertie dans une église. Elle est rentrée dans l'église et ça chantait, ça louait Dieu, etc. Et il raconte dans son témoignage qu'il y avait des armes secrètes dans cette église. Et ces armes secrètes l'ont percuté. Ces armes secrètes, c'était deux mamies au sourire resplendissant. Et chaque fois, elles étaient là. Oui. Enfin, je caricature, même certainement, j'exploite et j'imagine les choses. Mais bon, comme il le raconte, c'est un petit peu comme ça. Et ces mamies couraient après Saïd Oujibou. Et Saïd Oujibou était percuté par ça et touché par leur amour. Il a été touché par l'évangile. OK. Il a été touché par Jésus-Christ. OK. Mais concrètement, il a été touché aussi par ses deux mamies. Arme ultime. Vous savez quoi faire du coup maintenant ? On va faire travailler l'industrie des dentifrices. Et aujourd'hui, Saïd Oujibou est un pasteur qui s'investit quasiment 7 jours sur 7 dans l'œuvre de Dieu, qui voyage et qui fait tellement, tellement, tellement de choses incroyables. Je voudrais juste terminer avec un dernier témoignage, celui de mon ancien pasteur. Le pasteur qui a été le plus longtemps avec moi, enfin qui m'a vu grandir dans mes premières années de foi, Monsieur Lenoir, il est blanc. Il s'appelle Monsieur Lenoir. En fait, c'était un SDF. Il a été abandonné par son père. Il a été mis en pension à peu près vers l'âge de 10 ans. Et sa mère, pour vivre, devait faire un certain type de travail. Et lui, des fois, était témoin de tout cela. Et alors qu'il partait de pension, en fait, il était un petit peu un SDF. Et il a rencontré sa future femme, son épouse, qui n'était pas chrétienne du tout. Et je ne sais plus comment exactement, mais du coup, ils se sont retrouvés en fait à Montpellier à être invités dans une église. Et elle s'était convertie. Et lui, en fait, n'était pas converti, il ne savait pas du tout. Mais un jour, des gens qu'il avait croisés, qui étaient chrétiens, l'avaient invité à manger. Mais lui, comme c'était un SDF, la nourriture, c'était quelque chose qui était précieux. Et du coup, il ne se posait pas de questions, il mangeait. Et la deuxième fois, c'était pareil, il avait invité donc à manger ensemble, mais ils ont dit, est-ce que tu veux bien manger avec nous ? Mais après, ensuite, on ira à l'église et tout, etc. Et il a dit oui, pourquoi pas, il a mangé avec eux. Et ensuite, il est parti à l'église et là, il a été percuté par l'évangile. Monsieur Lenoir, quand il raconte son histoire et son témoignage, c'était quelqu'un qui côtoyait les gens de mauvaise vie, qui buvaient, qui fumaient comme un pompier, qui se bagarraient et qui côtoyaient les bars. Et Dieu l'a littéralement transformé. Il disait que sa bouche était pleine de noms d'oiseaux. Il aurait pu être ornithologue. Mais Dieu l'a transformé. Pourquoi ? Parce que des gens l'ont accueilli, des gens l'ont nourri, des gens ont pris soin de lui. Il a été non seulement percuté par l'évangile, mais il a vécu l'évangile au travers des frères et des sœurs qui ont exercé l'amour du Christ envers lui. Aujourd'hui, il est pasteur et il est rentré dans le ministère 1 an, 2 ans plus tard, il me semble. Et il sert encore le Seigneur aujourd'hui. On ne sait pas qui c'est qu'on va accueillir. On ne sait pas si on va accueillir le Paul de demain. On ne sait pas si on va accueillir la Paulesse ou la Déborah, je dirais, je ne sais pas. Une personne qui va impacter. Ce n'est pas à nous de nous poser la question. La question qu'on devrait se poser, c'est « Seigneur, donne-moi à pouvoir accueillir comme toi tu m'as accueilli. » Parce que peut-être la personne que je suis en train d'accueillir, c'est quelqu'un que tu vas utiliser puissamment dans ton œuvre. Alors que je ne puisse pas regarder à l'apparence, parce que toi, tu ne considères pas à l'apparence. Toi, tu regardes le David, le dernier de la famille. Tu ne regardes pas l'aîné. Tu ne regardes pas le grand fort. Tu regardes le petit chétif. On ne sait pas ce qui peut se passer. En effet, accueillir, c'est un challenge. Ça veut dire, je mets ma timidité de côté. Je ne sais pas trop faire, je ne sais pas trop quoi dire. Et ce n'est pas toujours évident. Et ça nous pousse à sortir de notre zone de confort. Mais si la parole de Dieu nous demande de le faire, c'est que c'est possible de le faire. C'est alors que lorsqu'on accepte d'aller en dehors de notre zone de confort et de le faire, c'est là qu'on peut se dire, ouais, ça ne vient pas de moi de toute façon, je ne peux pas accueillir de moi-même, ce n'est pas dans ma nature. De toute façon, il n'y a que Dieu qui fait ça. Et là, c'est quoi ? Pour la gloire de Dieu. Que je sorte de ma zone de confort. Et c'est encore d'autant plus incroyable, parce que je suis à la fois spectateur et à la fois acteur de l'œuvre de Dieu dans ma vie, mais aussi dans la vie de mon prochain. On ne sait pas ce qui peut se passer. Alors je pense qu'une des choses que l'on peut faire, si on veut voir un jour cette église encore grandir, et peut-être même toutes les autres églises, c'est de prier, de dire « Seigneur, aide-moi à accueillir comme toi tu as accueilli. » Que ce soit un adulte, un enfant, un adolescent, un jeune, un moins jeune, qu'importe. Seigneur, donne-moi à aimer comme toi tu aimes. Parce que c'est ce que tu as fait. Et tout cela pourquoi ? Pour ta gloire. Pour ta gloire seule, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que lorsque je considère, Seigneur mon Dieu, d'où je suis sorti, Seigneur mon Dieu, toutes les choses par lesquelles je suis passé et comment tu m'as accueilli, Seigneur mon Dieu, comment ton amour est rentré en moi, Seigneur mon Dieu, m'a percuté. Seigneur, je ne peux qu'être reconnaissant. Seigneur, à mon tour, je veux pouvoir le faire. Je veux pouvoir accueillir, Seigneur mon Dieu, celui qui est dans le besoin, sans considérer son rang social, sa richesse, son état physique, qu'importe, Seigneur Jésus. Je veux, Seigneur mon Dieu, avoir ces actes d'amour comme tu en as eu pour ceux qui venaient à toi, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, tu n'as pas rejeté celui qui venait à toi. Seigneur, viens nous aider à voir comme toi tu vois. Si dans ta parole, il y a marqué que, Seigneur mon Dieu, nous devons nous accueillir les uns les autres, Seigneur mon Dieu. Alors nous voulons le faire, Seigneur mon Dieu, de tout notre cœur, même si nous sommes timides, même si peut-être nous n'avons pas la parlotte, Seigneur Jésus, nous voulons le faire, Seigneur mon Dieu. Nous voulons aller au-delà, Seigneur mon Dieu, et petit à petit, Seigneur mon Dieu, nous voulons que l'Esprit de Dieu agisse, Seigneur mon Dieu. Tu as bien dit à Timothée, Seigneur mon Dieu, que ce n'est pas un esprit de crainte, ni un esprit de timidité, mais c'est un esprit d'amour, de force et de sagesse, Seigneur mon Dieu. Alors Seigneur mon Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse agir en nous, afin que nous puissions manifester cet amour, cette force et cette sagesse envers notre prochain. Comme tu nous dis, Seigneur mon Dieu, d'aimer notre prochain, comment ? Comme tu nous as aimés. Alors Seigneur mon Dieu, viens nous aider. Je t'en prie, Seigneur mon Dieu, à dépasser nos limites. Et Seigneur mon Dieu, à ne pas voir au péché, mais à voir au pécheur qui a besoin de ton salut. Seigneur mon Dieu, donne-moi à avoir des bonnes paroles à propos. Donne-moi à pouvoir vraiment manifester cet amour que tu as manifesté et que tu continues encore à manifester envers moi. Merci pour tout, Jésus. Amen.